Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nathalie Janson. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël.
Professeur d'économie à Neoma Business School. Face à vous, Sylvie Cazenave-Perret. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Première participation dans les experts aujourd'hui. Vous présidez le groupe Poisson Packaging. On a une industrielle autour du plateau. Ravi de vous accueillir.
Merci.
Et Christian Parizeau. Bonjour Christian. Rebonjour, qui était déjà là dans la matinale, économiste et conseiller auprès d'Aurel BCG. Alors, je le disais, le premier sujet, on l'avait déjà évoqué, mais beaucoup trop rapidement hier dans les experts. Je voudrais qu'on y passe un petit peu de temps ce matin. C'est l'emploi des jeunes. On sait qu'en France, nos deux gros problèmes sont le taux d'emploi des jeunes et des seniors, des plus de 60 ans. Si on augmentait ce taux d'emploi au niveau européen, on aurait réglé tous nos problèmes de finances publiques. C'est aussi simple que ça. Pour l'emploi des jeunes, Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, accompagné de trois autres ministres, a présenté hier un plan pour l'emploi des jeunes, dont l'ambition est d'améliorer ce fameux taux d'emploi pour les 15 à 24 ans de 5 points d'ici 2030. Allez Nathalie, je commence avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé des mesures ? Il n'y a pas un rond, c'est très simple. Hein. On ne peut pas mettre un euro supplémentaire. Et oui, évidemment, on a 5% de déficit. Alors, que propose le gouvernement ?
Écoutez, oui, effectivement, c'est d'essayer de faire en sorte que l'insertion des jeunes soit plus facile sur le marché du travail et notamment de pouvoir finalement rendre un peu plus flexible leur entrée. En fait, quand on regarde, par exemple, la France, c'est pas une bonne nouvelle, a toujours un taux de chômage des jeunes qui est élevé. Et
plus de 21%,
Je
rappelle qu'on est à 7,8%, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui.
Alors,
en France, on est à plus de 21%.
On est à plus de 20%.
Plus 5 points dernièrement.
Exactement. Et si, c'est intéressant de dire, parce que l'Espagne, en fait, qui est également à peu près au même niveau, mais elle est partie de beaucoup plus haut.
Voilà. Elle était à plus de 30%. Donc,
on voit bien qu'effectivement, pour pouvoir améliorer cette entrée des jeunes sur le marché du travail, c'est pas mystérieux. Il a fallu qu'ils assouplissent, effectivement, qu'ils créent des contrats plus souples, mais aussi d'avoir eu un partenariat entreprise-école. C'est-à-dire effectivement faire en sorte que lorsque l'élève arrive sur le marché de l'emploi, il soit moins déconnecté entre guillemets.
Là, les mesures présentées par le gouvernement sur ce partenariat, ils en parlent, hein.
Oui, ils en parlent tout à fait.
C'est uniquement par le biais de la sécurité, parce que il y a quelques jours, malheureusement, un événement dramatique. Un apprenti est décédé sur un chantier, effectivement, après un accident. Mais dans le rapport entreprise école, on aurait pu imaginer des idées un peu plus larges.
Mais c'est vrai que le problème de la France, on le sait depuis, enfin je veux dire, c'est quand même des problèmes structurels récurrents qu'on a depuis longtemps, c'est qu'en fait on a un problème d'école depuis, voilà, on a un problème d'école. Le modèle, c'est toujours le modèle allemand, parce qu'effectivement dans le modèle allemand, on a une valorisation de la filière d'insertion professionnelle, donc on a des jeunes qui ont un rapport avec les entreprises qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus décontracté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour un jeune de se décider à aller dans l'entreprise jeune, alors qu'en France, vous savez très bien qu'avec cette idée qu'il fallait avoir 85% de bacheliers, on a effectivement introduit, enfin, on a aggravé notre situation. Donc, on sait qu'on a aujourd'hui des jeunes qui font des bacs qui ne servent pas à grand-chose parce qu'après, ils vont continuer des études qui ne vont pas les insérer. Et donc, il faut, en fait, faut réformer l'école en même temps que le marché du travail.
Oui,
en fait,
et l'orientation,
c'est la mauvaise nouvelle.
Des filières. Hein.
Exactement.
C'est le fameux insert score plébiscité. Alors, on va faire la communication autour de l'insert score, c'est-à-dire quelle filière embauche, avec quel niveau de...
Oui, alors effectivement, ils favorisent le matching, ils favorisent la circulation de l'information. Mais quand vous êtes aujourd'hui, pour être beaucoup, souvent, dans les commissions de parents d'élèves pour des recours, vous voyez bien que la mentalité en France des familles en général, c'est qu'un enfant, il doit faire le général, sinon il a raté quelque chose. Et donc, tant qu'effectivement, on n'aura pas mis un terme à cette illusion qu'en fait des études générales mènent à quelque chose, je pense que ça, c'est ce qu'ils font. On va pas dire que c'est pas bien, mais ce sera sans doute pas suffisant, malheureusement.
Je vais avoir l'avis de la chef d'entreprise, hein, Sylvie Cazenave-Perret, mais juste avant, Christian Parizeau, vous avez jeté un coup d'œil aux mesures annoncées par le gouvernement.
Oui,
qu'en pensez-vous?
C'est ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que c'est ça. Le gros problème, c'est qu'en France, on peut pas parler des jeunes parce que ça s'inscrit dans une vision plus large. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas de solution. Bah oui, on n'a pas de solution pour les jeunes. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a en amont, il faut réformer complètement notre système d'éducation. Et c'est un vrai problème aujourd'hui de niveau d'éducation, de notre système qui soit adapté aux besoins de l'entreprise.
On a un ministre de l'Éducation nationale, je vous coupe Christian une seconde quand même, qui vient d'annoncer au Figaro cette semaine que le bac, si on ne savait plus écrire le français, on ne l'avait plus, il n'y avait plus la moyenne, et que sur les mathématiques, il fallait falloir se renforcer terriblement. Édouard Geffray est quand même assez intéressant comme ministre de l'Éducation nationale.
Je pense qu'il a, il a au moins une raison de dire qu'il faut sanctionner un niveau et pas dire qu'il faut 85% qui réussissent.
Et demander un minimum d'exigence.
Il faut avoir un certain niveau, sinon le diplôme vaut rien. Mais je dirais qu'il y a l'aspect formation, mais on n'en parle pas aussi. Il y a aussi toute la formation professionnelle. Pourquoi aujourd'hui vous avez des jeunes qui veulent aller jusqu'à Bac+5? Parce qu'on leur a dit que de toute façon, si tu n'atteins pas Bac+5, derrière, dans l'entreprise, tu seras bloqué. Tu peux pas rentrer à un bas niveau d'entreprise, avoir une formation professionnelle et finir cadre. Non, tu seras fermé, tu seras bloqué. Donc il y a aussi quelque chose aussi que les entreprises faut qu'elles prennent en compte. Les jeunes, leur vie ne se fait pas à 20 ans. Ils ont toute une carrière professionnelle. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui on nous parle qu'on fera plusieurs métiers dans la vie et tout ça. Donc est-ce que notre formation initiale, est-ce que d'avoir Bac+5 à l'origine, ça veut dire qu'on sera adapté dans le monde de demain?
Tout au long de la vie,
non.
Oui, qui change de plus en plus vite.
Je pense qu'il faut aussi faire un peu de nettoyage dans les entreprises pour dire il faut aussi permettre aux gens d'avoir des carrières et d'évoluer dans leur carrière. Donc vous voyez que les jeunes, c'est un peu ce qui est au milieu, mais ça il y a en amont et en aval, et tant qu'on gérera pas tout l'ensemble, bah finalement on est dans un système qui marche mal en ce moment.
On a l'avis des deux économistes là, Sylvie Cazenave-Perret, comment ça se passe très concrètement in situ?
Alors,
dans votre entreprise, je rappelle,
pour son packaging, sur ce qui a été exposé hier, je trouve que ça va dans la bonne voie. Depuis que j'exerce à la présidence du groupe Poisson Packaging, ce que j'observe, c'est que les choses quand même s'améliorent, même si le résultat n'est pas tout à fait là.
Oui, un message d'optimisme.
Oui, parce que nous, concrètement, depuis des années, nous travaillons avec les collèges, les lycées. On ouvre nos portes régulièrement. L'entreprise, les entreprises du bassin d'emploi dans lequel je me situe, ouvrent leurs portes pour communiquer sur nos métiers.
Est-ce que l'institution école est prête à vous écouter,
bien
à vous accueillir
bien sûr,
avec
on a des professeurs, on a des dirigeants d'établissements qui sont beaucoup plus motivés qu'il y a une dizaine d'années, ça n'a plus rien à voir, qui ont pris la conscience et la compréhension de ce qui existait pour leurs jeunes, qu'il leur fallait un futur. Et puis nous, de notre côté, on met en place des dispositifs. Par exemple, on a créé des petites maisons pour héberger nos alternants, parce que le problème de l'emploi des jeunes, c'est aussi le problème du déplacement.
Et
comment
oui,
ils se déplacent?
Le logement, crise
majeure.
Alors,
dans les grandes villes, ça va, il y a peut-être des transports en commun, mais nous, dans nos provinces, on peut pas dire on réindustrialise la France en plaçant de Paris ou de Nantes ou d'Angers. C'est forcément dans les campagnes, et on n'a pas de transport en commun, c'est normal, mais c'est pas non plus un drame. Donc, particulièrement chez nous, et c'est pas, je veux pas pousser cette proposition, mais quand même, on a institué une sorte de leasing social, et le salarié, pour 2 € par jour, il a sa voiture assurée, entretenue, kilométrage, et il peut venir à l'usine. Et ça, ça aide les jeunes, ça attire les jeunes. C'est une mesure
génial,
qui attire
j'adore.
Les jeunes.
Pardon, vous avez organisé votre propre leasing social,
voilà, on est
sans que l'État s'en mêle, sans que...
Exactement, on n'a pas attendu que l'État, et je pense que globalement les entreprises font leurs efforts pour pouvoir non seulement recruter des compétences, mais aussi les garder, les fidéliser, les faire progresser aussi. C'est ce qui fait notre appétence, c'est ce qui fait qu'on reste et ce qu'on aime avant tout, que le jeune soit ou pas formé. Depuis très longtemps, les entreprises ont pris le relais de l'éducation nationale, parfois aidées par les professeurs ou pas, pour intégrer ces jeunes dans des plans d'amélioration continue, de formation continue, qui sont très importants chez nous, qui sont très bien suivis, qui sont aussi suivis par les inspections du travail, c'est normal, par les directions du travail, mais ce sont des moyens, des vecteurs de progrès, d'intégration, et
formidable.
On a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont aujourd'hui managers dans notre entreprise.
Alors, des gens sans diplôme, je voulais qu'on s'arrête une minute sur les mesures qui ont été présentées par le MEDEF en début d'année, sur les NEETS notamment. Je rappelle, les NEETS, c'est un acronyme anglais, mais ce sont les jeunes qui sont sortis du système scolaire, souvent très jeunes, sans diplôme, sans formation, et qui sont sans emploi. très compliqué à réinsérer dans le monde du travail. Hein. Vous nous dites hein, ce matin, Sylvie Cazenave-Perret, que vous avez des jeunes sans formation, sans diplôme, qui ont fini manager. C'est que donc, c'est possible. Le MEDEF s'était inspiré des mesures de Matteo Renzi, mis il y a 10-15 ans en arrière en Italie. Pour faire simple, un CDI assoupli avec des droits rechargeables pendant 3 ans, on peut licencier le jeune si on voit que ça ne matche pas au sein de l'entreprise, en contrepartie d'une formation continue, comme vous le faites chez Poisson Packaging. Et puis par ailleurs aussi, peut-être voir un SMIC un peu en baisse pour ces jeunes sans formation, sans diplôme, en contrepartie d'une formation dans l'entreprise. La CGT est montée au plafond en disant au scandale. Mais si ça se fait ailleurs, est-ce que ce n'est pas des mesures très concrètes qu'on devrait reprendre, Nathalie Janson ?
Alors, voilà, je vais être désagréable. En fait, ce qu'il faudrait, c'est surtout...
Vous n'êtes jamais désagréable, Nathalie.
Voilà, il faut enlever, il faut supprimer le SMIC tout court, déjà. Il faut assouplir le marché du travail, parce que de toute façon, chaque jeune, on voit bien dans le cas qui vient d'être discuté, les entreprises, elles ont un intérêt. Enfin, je veux dire, forcément, elles ont besoin de main-d'œuvre qu'elles puissent intégrer, qui correspondent à leurs compétences, et ça, elles savent faire. Donc, il faut surtout les laisser et les laisser aussi contracter un salaire avec un jeune. Alors, pourquoi pas effectivement avoir, enfin, déjà flexibiliser les contrats, c'est une voie qu'il faut prendre assez rapidement. Et d'ailleurs, l'Espagne, c'est pareil, hein, dans ces mesures qu'elle a prises, c'est aussi un CDI plus souple, parce qu'effectivement, on a besoin de souplesse quand c'est un jeune. D'ailleurs, des deux côté, parce que ça peut être aussi le jeune qui en fait
qui n'a peut pas avoir envie de continuer,
parce que
aussi,
on est toujours en train de regarder du côté de absolument. Celui qui emploie, mais les deux parties, c'est-à-dire que quelqu'un qui est employé, je dirais malgré lui, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il faut qu'il reste parce que sinon il n'aura pas autre chose, bah c'est pas une bonne recrue et c'est ni bien pour lui ni bien pour l'entreprise. Donc il faut surtout assouplir les conditions du marché du travail qui effectivement en France sont quand même particulièrement rigides et malheureusement là-dessus, bah il y a pas grand-chose qui est dit. Et effectivement avoir un SMIC jeune, c'est comme avoir un SMIC vieux. Enfin c'est pas une bonne idée en économie, c'est pas une bonne idée d'avoir différents prix, que les prix soient différents, soit.
Donc mais vous réaliser totalement, voilà, aucune norme, nulle part.
Et on enlève le SMIC qui, en fait, n'a pas lieu d'être.
Est-ce qu'il vous empêche d'embaucher le niveau du SMIC, Sylvie Cazenave-Perret, ces jeunes sans diplôme, sans formation ?
Alors, est-ce qu'il empêche d'embaucher ? D'abord, si on a les marchés, voilà. Si on a les commandes, on embauche. Ouais. D'abord, c'est la première condition de l'embauche. Ensuite, c'est vrai que le SMIC et tous les dispositifs qui sont associés autour du SMIC deviennent d'une complexification telle que
allègement de charges, prime d'activité.
Non, mais en entreprise, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule un coût de revient. Dans le coût de revient, il y a de la main-d'œuvre. Donc, tous les dispositifs qui sont autour, qui vont venir compenser le coût de la main-d'œuvre, nécessitent une mobilisation du RH telle qu'on essaie, on n'essaie pas, mais en tout cas, on ne le rentre pas dans notre prix de revient. Ouais. Donc, ça ne nous rend pas plus compétitifs. Donc, je vais suivre l'opinion qui vient d'être développée par Nathalie tout de suite, je me permets.
Oui, oui, je vous Nathalie. En prie.
Parce que, en fait, ce dont on a besoin, c'est de la souplesse. Je ne suis pas du tout, moi, alors je ne suis pas pro-CGT, etc. Vous imaginez bien, en général, les patrons ne sont pas trop pro-syndicats. Néanmoins, je trouve que créer encore une catégorie spécifique de contrat de travail pour une catégorie de la population qui, si par malheur le jeune qui a été sorti du marché pour une raison X ou Y, il arrive un an trop tard, il ne peut pas en bénéficier. Mais nous, ça nous complexifie notre quotidien. C'est incroyable de toujours créer des règles nouvelles. Ce dont on a besoin, c'est de stabilité. Oui. Pour employer sereinement.
Donc vous estimez que dans le cadre actuel, vous pouvez faire de l'embauche par intérim, par CDD, par différents contrats aussi, vous le faites.
Donc
finalement, pas besoin de rajouter de couches supplémentaires. Christian Parizeau.
Il y a l'apprentissage. Je le rappelle, ça marche. On a vu que quand on met l'État, alors certes, certains vont nous dire il y a de l'aubaine. Oui, bon, bah, même s'il y a 2-3 emplois qui sont liés à l'aubaine, faut en en général, l'apprentissage a marché et on voit que ça marche très bien. Alors certes, on peut dire que est-ce que c'est bien de faire l'apprentissage quand on est bac plus 2, bac plus
5. Alors bac plus 3 à bac plus 5, effectivement, ça a coûté 10 milliards. On peut s'interroger sur le coût budgétaire de la mesure.
Là, on nous parle d'une mesure pour aider les jeunes. On veut recréer un nouveau contrat, alors qu'il y a des choses qui existent, qui sont en place, qui sont financées. Donc je m'interroge, est-ce que finalement, on a vu que ça a très bien marché en tout cas.
Bon, encore une fois, ces mesures, c'est pour les NEETS, c'est-à-dire pour des jeunes qui sont complètement en dehors du système.
Oui, mais dans ce cas-là, il suffit de mettre des structures où on leur donne des formations qui permettent l'apprentissage. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les attirer. On essaye de les avoir à Pôle emploi, on leur fait une proposition, on vous dit pendant 2 ans, vous allez travailler, mais vous ne serez pas dans le cadre scolaire, parce que le gros problème de ces gens-là, en général, c'est plutôt un problème de rejet du format scolaire. Oui. Donc, on leur dit, vous allez rentrer en entreprise, donc vous êtes en apprentissage, excusez-moi, qu'est-ce qu'on appelle, vous aurez quand même une formation théorique, parce qu'on ne peut pas demander à ces jeunes de travailler en entreprise s'ils n'ont pas un minimum de formation théorique. Oui. Donc, voilà, ça s'appelle l'apprentissage, excusez-moi, mais je vois pas ce qu'on va inventer de plus.
Si je peux me permettre, seulement les jeunes, mais leurs familles, les professeurs, les directeurs d'établissement. C'est vraiment quelque chose qui se passe au plan local, c'est une mobilisation locale des partenaires locaux qui travaillent ensemble pour faire découvrir les entreprises là où elles sont. Après, les jeunes, ils vont recevoir une formation, ils vont partir où ils veulent, mais au moins qu'ils aient cette formation et cette appétence pour le monde du travail.
Mais qui coordonne au niveau local travail entre l'éducation nationale
et l'association depuis plus de 30 ans.
Et les chefs d'entreprise,
depuis plus de 30 ans, on travaille en association avec tous les acteurs du territoire.
Et en fait, ça ressemble à ce que vous décrivez, c'est le système allemand, en fait, tout simplement. Parce que c'est ça, le système allemand, c'est des entreprises qui travaillent effectivement avec la filière d'apprentissage et en fait, ils ont un devoir de formation, entre guillemets, et voilà, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Après, on n'est pas obligé de suivre un modèle, mais nous, on a quand même un sérieux problème de rigidité. En plus, on sait très bien que les entreprises aujourd'hui font face à des conditions économiques qui changent très souvent. On a beaucoup plus de volatilité qu'avant. Donc, vous doutez bien qu'une entreprise qui se retrouve avec des rigidités dans la manière dont elle emploie les jeunes en plus, forcément ça va tomber, la rigidité va impacter la partie de la population qui est la plus compliquée à gérer.
Donc c'est ça qui est
vraiment incroyable, enfin qui est incroyable dans le mot au sens étymologique, c'est-à-dire pourquoi on n'arrive pas, les gouvernements n'arrivent pas à comprendre que rigidifier des prix, des procédures, en fait empêche en fait la de l'entreprise. Donc, sans vouloir tout, enfin, plus rien contrôler, il faut bien qu'ils comprennent que c'est quand même un élément bloquant et que ça complexifie quand même le travail de l'entreprise fortement. Bah oui. Et donc, c'est au préjudice de ces populations jeunes.
Bon. L'avenir est dans l'entreprise. Moi, c'est ce que je retiens quand même. Quand le public n'est plus capable de gérer certains problèmes, je vois que les entreprises prennent les choses en main quand même.
Elles le faisaient avant. Avant, on se rappelle. Enfin, moi, j'ai une famille qui vient d'un endroit où il y avait une industrie papetière. Mes grands-parents habitaient dans les maisons.
Ah oui, mais le paternalisme du 19e siècle en Écosse.
Je suis pas en train de dire que c'est. Mais on voit bien que les entreprises, quand elles ont un problème, elles trouvent des solutions.
Bah oui.
C'est pareil quand la Silicon Valley avec les problèmes de logement. Bah ils avaient des systèmes de ramassage des gens pour les faire, pour les acheminer. Enfin, l'entreprise, elle a besoin de résoudre des problèmes.
Ben oui.
Elle va pas attendre.
Bon, merci pour ce message optimiste. En tout cas, on peut faire des choses au travers de l'entreprise. Allez, on va passer à une grande séquence maintenant. Trump marché. On va en parler grosso modo jusqu'à la fin de l'émission. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est Trump manipule-t-il les marchés ? On a l'impression d'une gestion je vais y aller directement, quasi mafieuse, des intérêts d'un petit clan qui, en faisant fluctuer les marchés au gré des déclarations du président américain, s'en mettent parfois plein les poches. Des marchés financiers qui ont évidemment réagi là, il y a 24-48 heures, à la perspective d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Là, on voit que depuis cette nuit, ils se retirent dessus, donc ça va bouger dans le sens inverse. La réalité, Christian Parizeau, grand spécialiste des marchés. On n'a aucune idée de ce qui se passe, des discussions en cours. Est-ce qu'on ne vit pas une méga opération de manipulation des marchés ?
Alors, je vais vous répondre, oui, il manipule les marchés, mais peut-être pas comme on le pense. Dans le sens qu'il est tellement instable, il est tellement incertain, qu'aujourd'hui, vous avez des opérateurs de marché qui ne peuvent pas prendre une position. Alors, je vais vous faire l'extrême. Ils peuvent pas. Est-ce que vous êtes prêt à jouer aujourd'hui une forte baisse de la bourse américaine? Je mets un peu de côté la thématique de l'IA et tout ça.
Il y a la tech
je vous dis
quand
juste,
même qui tient tout
sur
ça,
la thématique Moyen-Orient, parce qu'on pourrait prendre des valeurs qui sont sensibles à ça. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à mettre plusieurs millions pour jouer la baisse? Pourquoi? Parce que vous dites, si je commence à faire ce pari et que Trump va dans les plateaux et dit tout est fini, on a un accord, je vais avoir ma position qui va se retourner. Oui. À l'inverse, la situation est tellement grave, le détroit d'Ormuz est bloqué, on se dit que ça va pas se résoudre du jour au lendemain, vous pourriez dire, je suis super baissier, je peux jouer une baisse. Mais personne n'ose jouer cette baisse parce qu'on se dit, on peut se reprendre un coup derrière. Mais ça joue aussi sur l'économie. Je vous prends juste un petit exemple. On a Baker Hughes qui nous donne, c'est un équipementier pétrolier américain, qui nous donne le nombre de puits qui sont ouverts et fermés aux États-Unis. Et on s'aperçoit que les pétroliers américains, malgré la forte hausse des cours du pétrole, n'ouvrent pas plus de puits.
Ben oui.
Aujourd'hui, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si demain Trump nous dit que la guerre est finie, le pétrole ne va pas rester à ce niveau-là et on va perdre de l'argent.
Oui.
Donc, ils disent, autant produire ce qu'on produit, on ne produit pas plus, on le vendra plus cher, mais nous n'ouvrons pas nos puits. Parce que Trump ne nous donne aucune visibilité. Donc,
vous êtes en train de me dire que c'est presque une forme de stabilité, les déclarations, puisque ça part dans tous les sens. On ne bouge pas, quoi.
Que personne ne bouge. C'est ça.
D'autant plus qu'il faut bien garder à l'esprit que le marché du pétrole était plutôt en surplus.
Oui.
Donc vous imaginez
bien. On était à 60 dollars, on a oublié, hein, mais
exactement.
Au mois de janvier.
Donc en fait, eux, ils savent que dès que c'est fini, ça, même si ça prend du temps, donc eux, ils n'ont aucune incitation à rouvrir des. Enfin, je veux dire, l'incitation à rouvrir des prix, elle est faible. Et c'est la même chose du côté du gaz de schiste. Donc effectivement, on ne peut jouer. Enfin, pour le moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais à part une hausse, on ne peut pas avoir d'autres choses qui vont se passer. Puisqu'effectivement, rationnellement, vous n'allez pas vous lancer à ouvrir un puits, c'est pour le fermer deux mois plus tard. C'est impossible.
Bon, voilà. Alors, ça est quand même très compliqué.
En attendant,
comment on pilote une entreprise industrielle dans ce contexte très mouvant?
Comment on fait? De la même manière, on s'organise peut-être, comme vous avez souligné tout à l'heure à l'allemande, nous on a intégré une SCOP, on achète notre énergie via cette SCOP qui réunit beaucoup d'acteurs. Ça nous a permis de figer nos prix d'achat d'énergie parce que, in fine, quelle que soit la taille de l'entreprise, on doit payer la facture. La facture, elle n'est pas reportable chez le client tout de suite, c'est pas possible. Donc ça passe par des coûts très importants sur notre trésorerie et des à-coûts sur notre trésorerie, surtout dans des industries énergivores. Nous, on est un peu énergivores, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par ailleurs, on a mis en place des systèmes d'énergie non fossiles, des panneaux solaires.
Est-ce que ça pousse à l'électrification? On le voit sur le marché du véhicule électrique qui est en plein boom depuis le début de l'année.
Alors, ça pousse en partie à l'électrification, ça pousse surtout à la recherche de nouvelles technologies, avec des experts dans ces nouvelles technologies, notamment de batteries. Vous voyez, hier, on était avec des experts sur... Il y a un an, c'était pas vraiment possible de stocker cette énergie solaire. Aujourd'hui, ça le devient. Donc évidemment, il y a des technologies qui se développent très rapidement et les entreprises sont toujours plus agiles et flexibles que les États. Et comme vous dites très bien, si on est libre d'avancer, si le cadre réglementaire ne change pas toutes les 5 minutes, eh bien, on fait des investissements. Alors, ça pose d'autres problèmes parce que cette énergie, on va la produire, mais peut-être qu'on va pas pouvoir, on va l'utiliser, mais peut-être pas la remettre sur le réseau à un prix suffisamment pour amortir nos installations. Mais ça passe aussi par la coordination de moyens. C'est pour ça qu'on a intégré une SCOP pour déployer tout ce dispositif, pour pouvoir bénéficier de coûts d'investissement très affaiblis. Par exemple, on implante 1000 panneaux solaires. Les budgets d'origine qu'on avait réunis étaient autour d'1 million d'euros. C'est à peu près ça. Parce que c'est pas en toiture, c'est sur le sol. Enfin bref, c'est un peu compliqué chez nous. Eh bien là, on est arrivé à un budget global du tiers en investissement. Donc les entreprises, elles vont faire ça.
Voilà l'efficacité de l'euro dépensé.
Les conditions, de leur performance économique pour pouvoir survivre dans un monde incertain.
Mais pardon Sylvie, dans le monde incertain que vous soulignez, est-ce que vous avez envie d'investir? Est-ce que vous êtes en capacité certainement? Est-ce qu'on investit quand on a la dissolution depuis 18 mois qui met un bazar politique sans nom dans le pays et la géopolitique qui rend notamment le coût de l'énergie plus en plus prohibitif?
Alors, comme vous pouvez observer, je ne suis pas un chef d'entreprise de tout nouveau. Ça fait longtemps. Donc, j'ai l'expérience, j'ai vu un nombre de crises incroyables.
Ouais, on vit un peu dans une permacrise depuis 2008.
Voilà. Hein, c'est vrai. Oui, et puis même auparavant, même on auparavant. A eu la globalisation, les délocalisations. Oui. Je disais tout à l'heure à une personne que j'ai rencontrée que 100% de mes clients ont disparu. Parce que, voilà, et dans l'emballage, ça paraît incroyable. Bon, donc, on est habitué à ça et donc on doit s'adapter. Nous, on ne retient pas les investissements. Par contre, on gère le financement des investissements. Parce qu'une entreprise, ce sont des flux de trésorerie. Oui. Quand on voit l'attitude du président Trump, il me fait penser à un dirigeant qui finance du long terme par du court terme.
Ah bah, on va en parler justement dans la seconde partie de l'émission. Mais
donc,
c'est un peu ça.
Voilà, nous on réagit pour pérenniser notre activité industrielle.
On va en parler dans la seconde partie de l'émission. Hein. Restez avec nous, on revient dans une petite minute. On se disait, est-ce que Trump manipule les marchés ? Est-ce que les marchés ne manipulent pas aussi un petit peu Trump ? On voit que dès que les taux longs touchent les 5%, Trump a tendance à reculer. C'est le fameux taco. L'administration Trump qui cherche aussi à financer de plus en plus à court terme sa dette, les T-bills plutôt que les T-bonds. On verra ensemble ce que ça peut avoir comme conséquence sur les marchés et puis on reviendra sur les dernières déclarations du président américain dans la guerre commerciale qui l'oppose à l'Union européenne et puis la décision de la Cour suprême aussi qui vient de condamner les tarifs de Donald Trump. Voilà pour le programme de la suite, on revient tout de suite, ne quittez pas.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.